France Inter, le 7-9.
Claude Ascolovitch est là pour la revue de presse. Claude, ce matin, on parle d'une révolte.
Que nous raconte le Figaro et qui vient de Suède et qui vise Monsieur Björn Ulvaeus, ci-devant chanteur et parolier de Abba. Abba qui en Suède est Dieu et Björn est le prophète. Mais pourtant blasphème, on le fustige car il a jeté son dévolu sur un symbole national, le parc Djurgården à Stockholm, de belles promenades. À ses confins se trouve déjà un musée Abba où l'on peut chanter Mamma Mia avec des clones virtuels des membres du groupe, mais ça passe. En revanche, Björn a racheté un vieil hôtel du parc à Solbakken, où il y a un siècle, la bonne société donnait des balles. L'ex d'Abba veut le rénover, lui rendre son âge d'or pour que brille dans le monde la fête suédoise. Mais ce projet est un agrandissement, une bétonisation, et va passer par l'arrachage d'un arbre à l'ombre duquel le poète Bellman, le Shakespeare suédois, composait ses plus belles œuvres. Voilà pourquoi, en Suède, en querelle, Ulvaeus, qui a déjà ouvert en ville la plus grande salle de jeux vidéo du monde, voudrait maintenant Disneylandiser, Abbalandiser un jardin patrimoine. On reproche même à une princesse royale de ne pas oser protester. Ah, ça ira. Dans Le Monde, je lis que décidément la Suède change, elle se demande si elle ne devrait pas abolir son interdiction de l'euthanasie. Car la Suède est touchée par la disparition d'un homme qui, le 17 janvier, a avalé un smoothie contenant un mélange létal. Et puis, je me suis endormi calmement, a-t-il dit dans un message enregistré, diffusé post-mortem sur les réseaux sociaux. Cet homme, atteint d'une maladie neurodégénérative, avait renoncé à une carrière dans les affaires pour devenir moine bouddhiste sous le nom de Natiko, celui qui grandit en sagesse. De son vrai nom, il s'appelait Björn Natiko Lindeblad. Björn est décidément le nom des prophètes. Aux Pays-Bas, on se dispute autour d'un pont à Rotterdam le Koningshavenbrugge, qui appartient à l'histoire du pays. Les Allemands le bombardèrent en 40, on le répara, mais il empêche désormais le passage vers la mer d'un 3-mois monumental que l'on construit dans un chantier naval pour Monsieur Bezos, fondateur d'Amazon. Va-t-on le faire tomber, le pont? Je lis dans Les Échos que le maire de Rotterdam veut être certain que la démolition servirait l'intérêt de sa ville et que Bezos ensuite paierait la reconstruction.
On parle aussi d'égalité en France.
Où l'équipe et le Figaro encore racontent la guerre juridique parlementaire communicante que provoquent des footballeuses musulmanes pratiquantes qui veulent taper dans le ballon le foulard sur la tête. La Fédération internationale l'autorise, mais pas la française. Ces hijabeuses sont soutenues par des footballeuses lesbiennes et trans, et l'équipe alors décrypte le hiatus entre féminisme intersectionnel, qui veut prendre toutes les discriminations, et féminisme universaliste, farouchement laïque. C'est technique tout ça, mais c'est le métier de l'équipe que d'éclairer la technique. Et quand commence le tournoi des Six Nations, le journal donne aussi, sur deux pages, photo à l'appui, une leçon de coup de pied de pénalité, signée Monsieur Jaminet, arrière du 15 de France et de Perpignan. Il faut, les gars, au moment de frapper, se chercher une cible imaginaire dans la tribune. À Narbonne, l'Indépendant titre « Enfin !» Car en Pro D2, hier, le Racing a gagné d'un point son premier match cette saison. Dans Sud-Ouest et dans Le Progrès, ce jour de lutte contre le cancer, vous allez fondre pour deux guerriers de 4 et 7 ans, Noah et Kylian, qui mettent des peignées au crabe. Dans La Voix du Nord, vous apprendrez qu'à Roubaix, dont on parle beaucoup, il y a aussi une école de police, dont une ancienne, Camille, 24 ans, est officiellement la meilleure élève policière de France. Dans La Charente Libre, vous lirez qu'à Cognac, deux jeunes gens sont allés récupérer 150 kilos de légumes dans les poubelles de deux hypermarchés, puis les ont distribués aux nécessiteux. Beau geste contre le gaspillage, ce gaspillage qui ravage les cantines scolaires, au fait à Montbéliard, dit l'Est républicain. Mais La Charente Libre nous dit aussi que les hyper sont fâchés, car ce n'est pas légal de piller les poubelles des gens, et au surplus, nos Robin des Bois auraient peut-être tout simplement accaparé des invendus destinés à la banque alimentaire.
Et on parle enfin d'un philanthrope.
Monsieur Joey Colombo, qui il y a un demi-siècle défendait l'honneur bafoué des Italo-Américains discriminés par les enquêtes de police sur la mafia. Oui, il en était de la mafia, ce monsieur Colombo. Mais vous allez lire sur le site du Monde et après dans le magazine comment Joe prit en main le tournage du film Le Parrain. Car la mafia avait adoré le roman qui montrait ses valeurs familiales. Il fallait faire en sorte que le film fût aussi bon. Ce fut fait par quelques sabotages, menaces et finalement un bon accord topé entre la production et Joe qui fournit même des figurants, des gars de chez nous, sur le tournage. Et quand le film sortit, Cosa Nostra organisa sa projection à Brooklyn. Mais lisez « You can trust me, guys ». À propos de famille, j'ai fini. Télérama vous fait envie avec sa recension d'un bouquin signé d'un écrivain philosophe jouissif nommé Jean-Pierre Martin, qui a écrit tout simplement sur les grands Martins de l'histoire. Roman choral sur un nom banal qui passe par Sainte-Thérèse née Martin du Carmel de Lisieux et le crooner Dean Martin, Dean et Martino Martino, qui, comme son ami Sinatra, avait des potes dans la mafia.
Merci Claude Eskolovitch pour cette revue de presse. France Inter.